L'Iran augmente le niveau de ses exportations de gaz vers les pays voisins du Nord. Les forces d'occupation turques et leurs mercenaires de terroristes ont attaqué à nouveau quelques villages dans la banlieue nord de Raqqa et la Corne de l'Afrique en proie à la pire sécheresse depuis des décennies. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le directeur du projet de développement du stockage de gaz de Shurijay a annoncé qu'avec l'achèvement de ce projet, la capacité d'exportation de gaz de l'Iran vers les pays voisins augmentera et la baisse de pression dans les régions du nord du pays sera évitée. Faisant référence au lancement de la deuxième phase du stockage de gaz de Shurijay en présence du président iranien Ebrahim Raisi et du ministre du Pétrole, le directeur de ce projet, Mehdi Velayati, a souligné. Le but est de stocker cette énergie dans un réservoir naturel et souterrain, car la quantité de consommation de gaz diminue pendant la saison estivale. Il y a un surplus de gaz en cette saison qui est stocké pendant 8 mois et on en retire les 4 mois froids de l'année pour les injecter dans le gazoduc national. Velayati a ajouté que cette capacité a été mise en œuvre et mise en service dans le champ de stockage de Shurijay. En ce qui concerne les caractéristiques de ce projet, il a précisé qu'en le complétant, la capacité d'exportation de gaz de l'Iran vers les pays voisins augmenterait. Le réservoir D de Shurijay est le principal fournisseur de matières premières de la raffinerie de Khan-Giran dans la région de Sarars, dans la province de Khorasan-Razavi. Sur un autre volet, le responsable de l'Union des exportateurs de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques, Hamid Hosseini, a affirmé que la tendance actuelle du marché n'indique pas une baisse des prix du pétrole, notant que le retour du pétrole iranien et vénézuélien sur le marché pourrait contribuer à équilibrer les prix et à compenser le déficit causé par la hausse de la consommation. Évoquant le fait que la demande de pétrole dépasse l'offre, il a déclaré. Les sanctions imposées quotidiennement à la Russie ont un impact sur l'offre de pétrole et feront grimper les prix en raison de la pénurie de pétrole dans le monde. Hosseini a souligné que certains pays, dont l'Irak, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont désormais la capacité d'augmenter leur production. En outre, le retour du pétrole iranien et vénézuélien sur le marché peut contribuer à équilibrer les prix et à compenser le déficit causé par la hausse de la consommation, a-t-il fait savoir. Les forces d'occupation turques et leurs mercenaires de terroristes ont attaqué à nouveau les villages dans la banlieue nord de Raqqa. Des sources locales ont indiqué aux correspondants de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, que les forces d'occupation turques et leurs mercenaires avaient visé vendredi 8 avril à l'artillerie lourde les maisons dans les deux villages Mualar et Saïda et la périphérie de l'autoroute M4 ainsi que le camp d'Ainissa au nord de Raqqa. Ces sources ont ajouté que les attaques avaient causé des dégâts matériels dans les maisons et les propriétés des Syriens. L'occupation américaine a intensifié pendant les derniers jours le renforcement de ses bases militaires dans la région syrienne d'Al Jazeera avec de grandes quantités d'armes et de munitions et de matériel logistique, notamment dans les deux gisements d'Al Omar et Conico dans la banlieue de Deir ez-Zor. Des sources locales ont révélé à Sana que les forces d'occupation américaines avaient fait entrer un convoi chargé d'armes et de grandes quantités de munitions et de matériel logistique vers sa base militaire dans le gisement de gaz de Conico à l'est des Rezor et un autre convoi similaire vers sa base dans le gisement pétrolier d'Al Omar. Les sources ont également indiqué que l'escalade des attaques ciblant les bases de l'occupation américaine et ses convois dans la région syrienne d'Al Jazeera à cause du rejet populaire des Américains et des FTS qui lui sont affiliés a poussé l'occupation américaine à renforcer ses bases en armes et munitions dans une tentative de limiter ses attaques populaires. Ansar Allah du Yémen a qualifié de spectacle comique et de jeu amusant la conférence sur le Yémen qu'ont organisé les membres de la coalition d'agression saoudienne à Riyad. Mohamed Abdelsalam, porte-parole du mouvement Ansar Allah et chef de la délégation de négociateurs du gouvernement de salut national, a critiqué la conférence de Riyad, soulignant que l'avenir du Yémen ne pourrait pas être tracé hors de ses frontières. Le jeudi 7 avril, au dernier jour des pourparlers sur le Yémen organisés par le Conseil de coopération du Golfe Persique sous l'égide de Riyad, le président démissionnaire et en fuite du Yémen, Abdrabo Mansouradi, a annoncé le transfert de ses pouvoirs présidentiels à un conseil exécutif de 8 membres dirigé par Rached Al-Halimi, après avoir limogé son vice-président. À peine quelques heures après l'annonce de la formation de ce nouveau conseil, l'Arabie saoudite a salué la décision et fait part d'un soutien de 3 milliards de dollars à ce conseil. En France, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu ce dimanche 10 avril. Parmi les 12 candidats qui ont officiellement battu campagne, seuls 3 ont franchi la barre symbolique des 10% des intentions de vote au premier tour et sont en capacité de se qualifier au second tour selon les derniers sondages. Il s'agit du président sortant Emmanuel Macron, toujours en tête des enquêtes d'opinion avec 27% des intentions de vote au premier tour, selon les dernières enquêtes IFOP, Ipsos et Opinionway en date du mercredi 6 avril. Marine Le Pen, candidate d'extrême droite, arrive en seconde position et réduit l'écart avec le président sortant. Elle est désormais créditée de 23,5% des intentions de vote dans l'enquête IFOP, 23% dans Opinionway et de 22% dans l'enquête Ipsos. Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'Union populaire gauche, figure en troisième position et pourrait créer la surprise à cette élection selon certains observateurs. M. Mélenchon a vite surclassé dans les sondages le candidat d'extrême droite Éric Zemmour et la candidate de droite Valérie Pécresse. Il engrange ainsi 17,5% des voix dans l'enquête IFOP, 17% dans celle d'Ipsos et de 16% chez Opinionway. La participation reste cependant l'inconnu décisif de ce scrutin. La crainte d'une abstention record grandit chez les candidats et les instituts de sondage après une campagne électorale parasitée par le conflit russo-ukrainien et ses conséquences, mais aussi par la crise sanitaire qui a empêché la tenue de grands meetings politiques. Selon une enquête Ipsos Soprasteria réalisée pour France Inter, 30% des électeurs interrogés à 12 jours du premier tour ne sont pas sûrs d'aller voter, ce qui serait un record d'abstention pour un premier tour dans la Ve République selon les sondeurs. L'on retrouve ces abstentionnistes potentiels chez les ménages modestes comme les ouvriers, 36%, les employés, 35%, et les foyers à revenus mensuels inférieurs à 2000 euros, 37%, précise l'enquête. La Corne de l'Afrique est en proie à la pire sécheresse depuis des décennies et 15 millions de personnes sont gravement touchées, a mis en garde vendredi l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Selon l'agence onusienne basée à Genève, les impacts sans précédent de plusieurs saisons des pluies ratées menacent de créer une crise humanitaire dans une région déjà touchée pour une série de chocs, notamment les conflits et l'insécurité, les conditions météorologiques extrêmes, le changement climatique, les criquets et pèlerins et les impacts socio-économiques négatifs de la pandémie de COVID-19. Le risque de famine et de malnutrition est élevé car la situation de la sécurité alimentaire se détériore rapidement, a souligné l'OIM dans un communiqué. Les pâturages et les points d'eau s'assèchent dans toute la région. Les communautés pastorales et rurales, dont la subsistance dépend des ressources naturelles, assistent à la mort de leur bétail et à la perte de leurs moyens de subsistance, a noté l'OIM. Les besoins dépassent les capacités en raison de ressources limitées et un financement supplémentaire est nécessaire de toute urgence pour sauver des vies et des moyens de subsistance, atténuer de nouveaux déplacements, éviter de plus grands besoins à l'avenir, toujours selon l'agence onusienne. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Quatrième coup hybride anti-Israël. alors qu'une autre opération a été menée dans les profondeurs de l'entité sioniste, plus précisément dans la rue Dizengoff à Tel Aviv, faisant 3 morts et 15 de blessés, les analystes sionistes ont déclaré que l'opération de Dizengoff était un coup porté au talon d'Achille d'Israël, les plaçant devant une nouvelle intifada. En effet, Israël est terrifié à l'idée de poursuivre des opérations similaires et en même temps, par crainte d'une escalade des tensions, il n'ose pas exercer de représailles contre les Palestiniens, surtout pendant le Ramadan. Les informations préliminaires disaient que 2 colons ont été tués et 15 autres blessés, dont 4 grièvement, dans l'opération menée jeudi 7 avril en plein cœur de Tel Aviv par un Palestinien de 29 ans, originaire de la région de Jenin en Cisjordanie occupée, qui a ouvert le feu sur un café de la rue Dizengoff avant de prendre la fuite à pied. L'auteur de l'opération armée de la rue Dizengoff, Raed Tazem, est tombé en martyr vers 5h30 du matin, après une chasse à l'homme massif, lors d'un échange de tirs avec une unité d'élite de l'occupation israélienne près d'une mosquée à Yaffa. Au total, plus de 1000 policiers et troupes d'élite de l'occupation ont été déployés à Tel Aviv pour retrouver Raed Tazem. Selon les médias, le café devant lequel s'est déroulée l'opération a également fait l'objet d'une autre opération de combattants palestiniens en 2016. Le quotidien israélien Haaretz s'est penché sur l'incident, publiant un article signé par l'expert militaire israélien Amos Harel. Il s'agit de la 4e opération de ce type depuis le 22 mars, créant à nouveau de l'insécurité dans les rues de Gush Dan. Cette opération fait également partie d'une opération plus large qui pourrait changer la situation entre Israël et les Palestiniens en termes de sécurité et de politique, a déclaré Amos Harel. Selon Harel, l'opération a plongé le premier ministre israélien Naftali Bennett dans une situation très compliquée, tant sur le plan politique que sécuritaire, et a plongé le sort de la coalition au pouvoir dans une crise majeure. Les services de sécurité israéliens suggèrent que l'opération de Dizengoff présente les mêmes caractéristiques que l'opération de Beersheba, Hadera et de Bnei Brak, car elles ont toutes eu lieu dans des grandes villes et à une distance importante de la ligne verte, toujours selon Amos Harel. Qui souligne que toutes les opérations ont été menées par une ou 2 personnes tout au plus et que les services de sécurité n'ont déclenché aucune alerte d'information rapide pour les empêcher, ce qui pose un réel problème pour la sécurité israélienne. Harel a admis que les auteurs des récentes opérations ne sont membres d'aucun des groupes de résistance palestiniens. Contrairement aux auteurs des opérations de Beersheba, Hadera et Bnei Brak. À l'heure actuelle, outre le nombre élevé de victimes, la plus grande préoccupation d'Israël est la possible imitation d'opérations similaires, d'autant plus que les images et les vidéos des récentes fusillades sont largement diffusées par les médias, a-t-il averti. Selon le journalier Yediot Aharonot, le premier ministre israélien a tenu une réunion extraordinaire pour évaluer les derniers développements avec des responsables israéliens tels que le ministre de la Guerre, le ministre de la Sécurité intérieure, le chef d'état-major, le chef du service de sécurité publique, Shabak, le chef de la police, le chef du conseil de sécurité israélien et d'autres hauts responsables du régime sioniste. Selon les médias israéliens, le type et la forme de l'opération à Dizengoff pourraient entraîner une augmentation des pertes sionistes, ce qui pourrait plonger Israël dans une situation de catastrophe majeure.